Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, dans cette émission, nous allons évoquer Alexis de Tocqueville, dont chacun sait qu'il est l'auteur de La démocratie en Amérique, une œuvre qu'il a publiée entre 1835 et 1840. Et les éditions de Lerne proposent dans leur collection Carnet le dernier chapitre de cette œuvre qui est intitulé par l'éditeur « Le despotisme démocratique ». Alors j'ai le plaisir de recevoir dans notre studio François Livonnet qui dirige cette collection Les Carnets de Lerne avec Laurence Tacou. Bonjour, vous êtes professeur de philosophie à Versailles, je crois.
Merci, merci de me recevoir.
Et pourquoi avez-vous choisi de publier ce dernier chapitre alors que je crois que l'œuvre de Tocqueville entière est disponible ? Et en plus, vous lui avez donné un titre très alléchant, le despotisme démocratique. On a envie de savoir en quoi ça consiste.
Oui, pour deux
raisons. Justifiez-vous.
Je me justifie tout de suite. Je n'essaie pas de défaire, de vendre en pièces détachées des œuvres. De la démocratie en Amérique, c'est une œuvre majeure, essentielle, mais c'est une œuvre vaste. Le lecteur, aujourd'hui, je pense en particulier aux étudiants ou aux élèves, ne vont pas facilement vers des œuvres d'une grande ampleur. Présenté sous la forme d'un volume de 80 pages, le dernier chapitre, c'est d'abord le rendre plus accessible. Plus, on va en parler, c'est un chapitre qui a des résonances, des échos avec notre actualité politique. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai fait le choix de l'éditer sous ce titre. Et puis, il y a une autre raison, c'est que quand une collection se constitue et qu'une collection commence à avoir un certain public, il y a presque 200 volumes maintenant dans cette collection, les gens, très souvent les lecteurs, n'achètent pas un titre parce qu'ils le cherchent, ils achètent un titre parce que la collection le propose. Et par conséquent, c'est l'occasion de faire découvrir. Nous avons en d'autres temps parlé de Michelet, de Maurras, de Cœur de Roi et de bien d'autres, de découvrir des auteurs de notre tradition intellectuelle qui ne sont pas du tout des auteurs techniques, qui sont des auteurs dont l'actualité est parfois, j'ose un mot convenu, ce sont des auteurs brûlants. Comme l'actualité.
Rappelons qu'Alexis de Tocqueville, tout brûlant qu'il était membre de l'Académie des sciences morales et politiques, où il avait été élu le 6 janvier 1838. Et si j'ai bien calculé, il avait 35 ans, puisqu'il est né en 1805, donc c'était un tout jeune académicien, dans la section morale. Puis il a été élu à l'Académie française en 1841. Et j'ai vu que son éloge avait été prononcé par le révérend Père Lacordaire, ce qui est tout de même très amusant, dans une séance de l'Académie française du 24 janvier 1861. Alors, on est tout de même étonné du rapprochement de ces deux mots, le despotisme démocratique, parce qu'on a quand même l'impression que ce sont deux mots un peu inconciliables.
Alors, pour répondre à votre question, je crois qu'il faut faire un tout petit détour. Il faut expliquer que Tocqueville, a écrit deux œuvres majeures, hein, L'Ancien Régime et la Révolution, et le despotisme,
La démocratie en Amérique.
La démocratie en Amérique. Pourquoi je rappelle ces deux livres ? Parce que le livre sur l'Ancien Régime et la Révolution, c'est un livre qui montre que les causes de la Révolution ne sont pas circonstancielles. Il faut les chercher dans la durée, et en particulier dans la montée progressive de l'égalité, de l'exigence d'égalité. Cette exigence d'égalité qui va conduire à ce grand mouvement de rupture que sont les révolutions en général, et en particulier la Révolution française. À la fin des années 1820, le jeune avocat qu'il est entreprend un voyage aux États-Unis, en fait une enquête avec Gustave de Beaumont, pour étudier le système pénitentiaire américain. Il faut déjà mesurer ce que ça a d'extrêmement novateur, d'aller faire un travail d'enquête. Aujourd'hui, c'est d'une banalité extrême, mais aller dans les Amériques à l'époque, c'est quand même une très grande aventure. Et les États-Unis de l'époque, ce sont quelques États de la côte Est, c'est pas grand-chose. On est encore dans une Amérique commençante. Il y a encore le Far West, pas loin. Donc, au retour des États-Unis, il écrira ce traité, qui est un traité majeur. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important dans ce livre ? C'est qu'il y a, de la part de Tocqueville, un talent, mais très, très, très remarquable, d'observation, qui va lui permettre de jeter les bases d'une analyse À savoir, premièrement, que cette société naissante, cette société américaine naissante, est bien davantage qu'une colonie anglaise fraîchement émancipée, mais est d'une certaine manière l'avenir de nos sociétés. Il découvre dans ces sociétés l'avenir des sociétés, disons, allez, occidentales, la forme politique vers laquelle nous allons. Il y a là quelque chose d'extraordinairement anticipateur. Mais en même temps, il découvre dans ces sociétés naissantes un certain nombre de travers, de vices, de contradictions qui vont nourrir chez lui des analyses extrêmement pénétrantes et une certaine inquiétude, à savoir, et d'où le titre « Le despotisme démocratique », à savoir que la démocratie, elle repose sur deux fondements, deux principes, un principe d'égalité et un principe de liberté. Et dans la démocratie moderne, à la différence de la démocratie antique, c'est le principe d'égalité qui va devenir dominant. Il parle de l'égalisation des conditions. Pourquoi cela ? D'abord, il faut étudier, il faut faire un rapport en profondeur, mais qu'est-ce que la liberté, par exemple, pour les Grecs ? La liberté pour les Grecs, c'est la liberté du citoyen de participer à l'activité de la cité. Donc c'est une liberté, je dirais, entre guillemets, participative. La liberté dans la démocratie moderne, c'est au contraire la revendication de pouvoir chacun vivre pour soi. C'est-à-dire, au fond, de vivre et de poursuivre la prospérité pour soi. Et non pas dans le rapport ou dans la responsabilité collective, politique au sens fort et grec du terme. L'égalité va prendre le dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette égalisation des conditions ? C'est cette poursuite à la fois de l'égalité politique, de l'égalité des chances, de l'égalité dans la distribution, dans la possibilité de profiter des biens les plus élargis. Et cela va conduire progressivement à l'émergence d'une classe moyenne, une moyennisation de la société. Classe moyenne qui va finalement provoquer une atomisation du corps social, chacun se repliant sur soi-même, chacun ne poursuivant que son bien-être propre. Il y a une sorte de matérialisme qui se met en place et un abandon total du bien commun, un abandon total de la responsabilité collective qui fait que le pouvoir va être laissé comme vacant du point de vue démocratique, par conséquent va être laissé à un despotisme, une nouvelle forme de despotisme, il le dit d'ailleurs dans le texte en disant « despotisme, le mot ne convient pas », mais il n'y a pas de mot qui puisse convenir.
Oui.
Bon, il n'y en a pas d'autre. Despotisme qui correspond à une sorte de servitude douce, une nouvelle servitude, où les individus repliés, chacun sur soi, demandent au fond à l'État d'assurer leur protection, d'assurer les conditions de leur prospérité dans l'égoïsme le plus total. Et donc, on a une situation très étonnante qui consiste à dire que cette démocratie, elle aboutit à une inactivité citoyenne. Les citoyens, finalement, ne s'intéressent plus à la politique. Les citoyens demandent simplement à la politique qu'on s'occupe d'eux, mais sans faire parler de soi. Il ne faut pas que la politique fasse parler d'elle. Il ne faut pas que l'État fasse parler de lui. Et on a une situation qui est une situation très grave, qui est celle de la désaffection. Lorsque les élections les plus récentes, en France en particulier, montrent que des élections avec des enjeux majeurs provoquent 30, 40, 45% de l'électorat au grand maximum et qu'on s'en félicite, hein, on se rend compte qu'il y a un problème considérable.
Oui, que ce système que dénonce Tocqueville, effectivement, est tout à fait vrai. On est dedans et...
Nous y sommes.
À vous écouter, effectivement, on a l'impression que c'est aujourd'hui.
Nous y sommes. Ce despotisme démocratique, c'est la conséquence du repli sur soi des citoyens, de la désaffection politique, de l'oubli du bien commun. C'est cette volonté, chacun, il le dit très bien, on a affaire à une sorte d'atomisation sociale et risque cette atomisation sociale de remettre en cause les principes mêmes de la démocratie. Et là, c'est important. Pourquoi ? Parce que nous avons, avec vous, parlé il n'y a pas très longtemps de Maurras. Maurras produit une critique externe de la démocratie, puisqu'il est monarchiste. Tocqueville produit une critique interne, c'est-à-dire qu'il ne dit pas que la démocratie est un mauvais régime puisqu'elle conduit à un despotisme nouveau ou à la servitude douce. Il appelle bien évidemment aussi à une sorte de régénérescence de la démocratie. Donc c'est une critique interne qui est à la fois lucide, implacable, sur l'évolution non démocratique de la démocratie, sur les mœurs délétères qui se développent dans les sociétés démocratiques. Et en même temps, il essaie d'imaginer des solutions, entre guillemets, pour que la démocratie soit revitalisée, pour que la démocratie ne sombre pas. parce qu'en perspective, il est très lucide, en perspective, il y a toujours la possibilité que la démocratie soit abattue, et sur les ruines de la démocratie, la naissance de nouvelles dictatures, de nouveaux despotismes, et là, non pas
d'où, au sens propre du mot.
Au sens propre du mot. Donc il imagine des solutions qui sont aussi très modernes, par exemple la presse, l'importance de la presse, lorsqu'il ne pressent pas. Ce que nous savons, c'est que ce pouvoir, ce quatrième pouvoir, comme on l'a appelé, le pouvoir de la presse, c'est un pouvoir à la fois essentiel, qui va exprimer d'une certaine façon ce qu'on appelle la société civile. En même temps, c'est un pouvoir qui lui-même deviendra incontrôlable, un pouvoir qui s'arrogera finalement lui aussi des abus de pouvoir. On le sait aujourd'hui, quelles limites apporter à ce pouvoir de la presse, surtout avec le développement des médias. Il dit aussi quelque chose qui est intéressant. Tocqueville, c'est un aristocrate qui n'est pas du tout pour l'Ancien Régime. Il montre très bien que c'est un processus inéluctable. Mais il remet en cause l'un des acquis de la Révolution, et que les révolutionnaires et les républicains ultérieurs célébreront, c'est la disparition des corps intermédiaires. Il dit que la disparition des corps intermédiaires, c'est aussi ce qui va faciliter, d'une certaine façon, l'émergence de ce despotisme démocratique, c'est-à-dire de cette coupure radicale entre les citoyens qui ne vivent que refermés sur eux-mêmes, poursuivant le bien-être, la prospérité, le confort, alors que l'État
gère le reste.
Les corps intermédiaires, c'est aussi toutes ces médiations entre les citoyens eux-mêmes et l'État. Évidemment, Tocqueville n'est pas contemporain de la grande montée des syndicats. Il est clair que le syndicalisme moderne repose dans sa puissance et dans son existence sur la disparition des corps intermédiaires. C'est une autre affaire, c'est une conception.
Il est d'ailleurs lui-même un corps intermédiaire maintenant.
Oui, et en crise.
Et en crise.
Disons-le.
Et en plus.
Donc, il y a chez Tocqueville, disons-le, ce n'est pas simplement une curiosité, ce texte. C'est un texte extrêmement fort parce que d'une grande lucidité. Bon, il y a des aspects de l'analyse qui, bien évidemment, ne valent pas ou ne valent plus, parce que la sociologie tocquevillienne, elle est quand même parfois un peu.
Oui, mais assez peu, tout de même. Je trouve que c'est finalement encore d'actualité, tout à fait.
En particulier ce dernier chapitre. Oui.
Alors, on peut en lire un tout petit morceau pour donner une idée, simplement, mais il faudrait lire beaucoup plus largement. Tocqueville écrit : J'affirme qu'il n'y a pas de pays en Europe où l'administration publique ne soit devenue non seulement plus centralisée, mais plus inquisitive et plus détaillée. Partout, elle pénètre plus avant que jadis dans les affaires privées. Elle règle à sa manière plus d'actions et des actions plus petites, et elle s'établit davantage tous les jours, à côté, autour et au-dessus de chaque individu pour l'assister, le conseiller et le contraindre. Peu à peu, l'État devient ainsi le débiteur de la plupart des riches et il centralise dans ses mains les plus grands capitaux. Et l'analyse se poursuit et la démonstration se poursuit, c'est-à-dire c'est l'État et l'administration de l'État qui nous envahit petit à petit. Mais c'est aussi la faute alors, des citoyens qui laissent faire et de cet égalitarisme de conditions qui effectivement devient trop... déséquilibré par rapport
Il produit un effet singulièrement contradictoire. D'un côté, cette poursuite de l'égalité est toujours frustrante, car elle n'est jamais atteinte, et on ne cesse de mesurer ce que l'on a par rapport à ce que l'on n'a pas, mais qu'a le voisin. Et d'autre part, cette égalisation des conditions finit par produire cet éclatement de la société et ce repli sur soi. Donc ce que je voulais simplement ajouter, parce que l'auditeur ne le sait pas nécessairement, c'est que Tocqueville est donc un grand écrivain, un historien, un philosophe, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui a eu des responsabilités politiques. Donc ce n'est pas simplement qu'un intellectuel enfermé dans sa tour d'ivoire. Il a été député très longtemps, député de la Manche. Il est de ce terroir qui sera celui de Barbey d'Aurevilly, qui peut donner à la fois, par conséquent, des républicains éclairés et puis des monarchistes ultramontains intransigeants. Et il sera même d'ailleurs un temps ministre des affaires étrangères, peu de temps. Il le sera après la révolution de 48, mais il sera contre le coup d'État du prince-président et il se retirera. Il va mourir d'ailleurs jeune. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il avait été un académicien précoce, mais il va mourir très jeune.
En 59, donc ça lui fait effectivement à peine 50...
Oui, 46-47 ans. Il meurt de maladie, de tuberculose, je crois.
Oui, à Cannes. Alors voilà, nous avons effectivement présenté rapidement cet ouvrage, ce dernier chapitre de Tocqueville, Le despotisme démocratique, s'est publié au carnet de Lerne, on ne serait que le conseiller. Évidemment, même, c'est comme une conclusion, ce chapitre-là. J'allais dire, ça dispense un peu de lire la totalité. Pas tout à fait.
Ça ne dispense jamais.
Ça ne dispense jamais, mais enfin, ça permet d'entrer dans l'œuvre, en tout cas, de manière en effet plus aisée. Alors, merci à vous et à François Livonnet de nous avoir présenté cet ouvrage. C'est un de plus. Nous avons en effet présenté pas mal de textes de ces carnets quand ils ont un rapport avec les académiciens. Ce n'est pas que nous sommes contre les autres, mais enfin nous avons tout de même un regard effectivement un peu orienté. Alors peut-être à une autre fois pour d'autres textes académiques dans
Merci.
La même collection.
Merci beaucoup et je prépare le cahier de Lerne Michel Serre, qui est par conséquent quelqu'un de la maison. Et voilà,
oui. Voilà, mais là ce sera un gros cahier alors.
Gros
parce
cahier.
Que Michel Serre, on ne peut pas lui donner un petit carnet parce qu'il y aurait trop de carnets à faire avec son œuvre. Merci à vous et à bientôt pour une autre émission.
Merci.